C'est pas du vent. C'est pas du vent, le magazine de l'environnement sur RFI. Anne-Cécile Bras.
Bonjour. Alors que la 25e conférence des Nations Unies sur le climat se déroule à Madrid avec peu de perspectives d'engagement extraordinaire des États, la mobilisation de la population s'intensifie. La preuve avec le succès du Mobile Film Festival. Un téléphone, un film, une minute. Cette année, le thème « Agir maintenant sur le changement climatique » a entraîné un record de participation. Nous vous dévoilerons le palmarès dans quelques instants avec Bruno Smadja, le fondateur du festival. Et nous discuterons avec quelques réalisateurs de films au Burkina Faso, en Côte d'Ivoire et en France. Mais tout de suite, nous vous proposons un témoignage exceptionnel.
C'est pas du vent sur RFI.
Il y a des opportunités qu'il ne faut pas manquer. Rencontrer le père Pedro en est une pour moi. Lorsque j'ai appris qu'il participait à la 3e édition du Forum de l'économie positive où nous étions la semaine dernière, j'ai demandé aux attachés de presse de faire tout leur possible pour organiser une interview. Le temps était compté, mais leur détermination et la mienne ont abouti à cette rencontre que je ne suis pas prêt d'oublier et que vous allez pouvoir écouter dans un instant. Le père Pedro, c'est une stature imposante, une poignée de mains solides, un sourire franc et un regard pétillant. C'est la voix des sans-voix qui, depuis 30 ans, avec son association à Kamassou, lutte pour la réinsertion sociale et économique des plus pauvres de Madagascar. Le résultat, une ville construite avec et pour 25 000 personnes au bord de la décharge de la capitale de Tananarive. Plus de 500 000 personnes y ont séjourné en 30 ans. Vous comprenez maintenant pourquoi j'avais hâte de rencontrer le père Pedro. Ordonné prêtre catholique à 27 ans, 1975, à Buenos Aires, en Argentine, il part la même année pour être prêtre de la paroisse de Vangendrano, dans le sud-est de l'île, où il restera 14 ans. Mais c'est quelques années plus tôt, en 1970, que le père Pedro pose pour la première fois les pieds sur le sol malgache et qu'il découvre la grande pauvreté.
Je voulais connaître ce pays où j'étais volontaire. Ma communauté des saints médecins d'épaule avait demandé à l'époque des volontaires pour la mission de Madagascar. Et puisque Saint Vincent de Paul, le grand saint français du XVIe siècle qui a rendu la dignité aux pauvres ici en France et qui aidait sans assister, parce que la dignité d'un pauvre, il est au-dessus de tout. Eh bien, ces saints, Saint Vincent de Paul, 1648, envoyait ses premiers missionnaires à Madagascar, qui allaient en bateau, en voile, et il mettait un an pour arriver. Aucun missionnaire n'a vécu plus que de 2 ans à cause des palus et malaria. Alors voilà, j'ai voulu connaître ce pays-là avant d'être un notable. Quand vous êtes prêtre, on vous met à l'hôtel et dit, bon, lui, il est sacré. Et alors j'ai dit, non, je vais connaître comme étudiant. Et j'ai arrêté entre la philosophie et la théologie. J'ai fait 2 ans de régence et j'ai travaillé. Je suis fils d'ouvrier, mon père était maçon. Et toutes les vacances, j'ai aidé mon père et j'ai aidé ma famille. Nous étions 8 enfants. On était sobres, mais quelle joie dans notre famille, quelle fraternité, quel partage. Et j'ai voulu servir Madagascar en travaillant. Et là, j'ai découvert qu'il y avait pauvreté, mais encore dignité. Il y avait dignité, surtout dans la côte est. Dignité. Les gens se respectaient, il y avait l'entraide, il y avait la solidarité. On partageait un pain, ils partageaient un 20 morceaux. Et voilà, j'ai dit non. Quand je serai prêtre, je vais revenir. Parce qu'un peuple qui était à 10% dans la région de Vangendjan, était 10% était chrétien. Le reste, c'était la religion des ancêtres. Ils croient à un Dieu créateur qui a créé le ciel, la terre, les mains, le pied. J'ai vu que ses ancêtres avaient dit que c'est l'esprit qui fait la personne. Pas le diplôme, pas l'argent, pas la richesse, mais l'esprit. Bon, je dis, c'est un peuple vraiment d'une grande sagesse. Et moi, j'ai dit, je vais revenir quand je serai prêt. Je suis revenu en 75. Et on m'a mis dans le même lieu où j'étais, ma régence. Alors j'ai dit à ce peuple-là, cette église, cette mission, c'est à vous. Venez quand vous voulez. C'est votre maison. Parce qu'on est au service, un prêtre. Un pasteur doit être au service. Comme dit le pape François, un prêtre doit avoir l'odeur de ses brebis. Alors voilà, je suis devenu prêtre pour suivre un homme qui s'appelle Jésus, qui était le plus grand révolutionnaire, parce qu'il a donné sa vie pour ses frères et ses sœurs. C'est cet homme-là que je voulais imiter.
Et donc, vous êtes arrivé en 1975, vous êtes resté 14 ans dans le sud-est de l'île, et puis vous avez été attiré un peu par les fumées sur les hauteurs de l'île, un peu plus dans le nord, là, vers la capitale, Antananarive. Et en 1989, vous avez créé à Kamassou, ça se traduit par les bons amis, pour venir en aide aux familles qui vivent au milieu des ordures sur la décharge d'Andralanitra. Donc, qui est situé à une dizaine de kilomètres de la capitale malgache. Comment ça s'est passé au départ? Comment vous avez rencontré ces familles?
Oui, je vous dis tout d'abord que je ne suis pas parti de Vanginjan. Je suis parti parce que j'étais tellement malade que je pensais que je ne vais pas survivre. Alors j'ai dit, puisque je suis malade, je ne peux plus servir à mes frères ici, je pars. Et je vais partir de Madagascar. Et ma communauté des Amis sans épaule avait besoin d'un formateur à Tananarive. Et ils m'ont proposé cela. J'ai dit, je suis malade. Bah, on va te soigner, tu reviens. Et voilà, et c'est à cause de ce service à la communauté que je suis arrivé à Tana. Et quand à Tana, la semaine suivante que je suis arrivé, 1989, j'ai vu des pauvres. Et une maman avec ses 5-6 enfants qui étaient là me racontait sa misère, ses drames. J'ai dit, mais si c'est vrai ce qu'il dit cette personne, je ne peux pas me débarrasser d'elle avec un billet de... même si c'est grand. Il faut s'occuper, il faut aller aux racines de la pauvreté, il faut l'aider pour qu'elle ne continue pas à aller tous les jours commander de porte en porte et qu'elle amène ses enfants, les enfants à l'école et elle au travail. Et un jour, un malade m'a demandé d'aller le visiter. Je passe par la décharge d'Antananarive, Anjalant. Et quand j'ai vu des centaines, voire presque un millier d'enfants qui se disputaient les ordures avec des animaux qui étaient là, je suis resté sans parole. Ce soir-là, je ne pouvais pas dormir. J'ai levé les mains. Je me suis mis à genoux sur mon lit. J'ai levé la main, j'ai dit, Seigneur, Dieu, aide-moi à faire quelque chose pour ces enfants. Eh bien, le lendemain, je suis allé les voir. Et ils m'ont dit, toi, les Blancs, qu'est-ce que tu veux? J'ai dit, parlez avec vous. Eh bien, parle. Et il dit, mais on va parler debout ici, debout, à la rue. Mais tu entres cette case-là, une case de carton et de plastique d'un mètre trente d'auteur. Je suis entré là-dedans. Et au milieu d'eux, assis à un demi-cercle, là a commencé ce mouvement d'Akamassou, un mouvement de solidarité. Nous ne sommes pas une association. Une association, c'est vous avez un projet. Nous n'avons pas de projet. Nous voulons la dignité de la personne humaine. Nous voulons l'épanouissement de la personne humaine. Nous voulons que chaque personne, chaque citoyen, chaque enfant vive dignement. Dignement. Alors voilà, on a commencé ce mouvement et j'ai fait appel tout de suite à des gens que je connaissais. Des Vanginjan, de la région sud-est, qui était à Tana, dans l'université, qui ne marchait pas. J'ai dit, vous souvenez, quand vous faisiez des belles paroles, comment il faut être en tant que chrétien, en tant que citoyen, responsable de son pays, lutter pour la justice, lutter pour la fraternité, le partage. Il y a une occasion de le démontrer. Voulez-vous me suivre à la décharge? J'ai dit, mon père, on y va, allez, on y va. Et voilà, une douzaine de jeunes malagas, ils m'ont suivi. Et ils sont toujours là. Et ces jeunes, ils ont augmenté d'année en année. Et nous sommes devenus, les téléphones sans fil, ça marchait là-bas. Il dit, il y a un endroit où on reçoit les pauvres, on les écoute, où on les donne du travail, on les respecte. Et bon, et les gens commencent à venir. Et alors, il fallait aussi augmenter les gens autour pour les accueillir. Et on a commencé une aventure que je n'ai jamais pensée. Que ça va devenir une ville aujourd'hui de 25 000 personnes. Et que les gens qui ont passé dans nos villages, c'est plus de demi-millions en 30 ans.
Plus de 500 000 personnes sont passées dans votre village.
Un miracle que moi-même j'ai mal à croire. Et si je savais au début que ça va devenir un peuple si nombreux, je prendrais la fuite. J'aurais plus la fuite. Je ne me suis jamais embarqué là-dedans. Je dis avec quel argent, avec quels moyens, je vais faire vivre tout ce peuple-là, faire des écoles, faire des maternités, des hôpitaux, des dispensaires, des routes, des adductions d'eau, des logements. Nous avons fait plus autour de 4000 logements et les espaces de sport. Et nous avons fait aussi 4 cimetières. Et quand quatre cimetières, quand les gens voient, ils ont vu qu'on le respectait même mort. Et à Madagascar, la mort, c'est, les morts sont respectés parce que ce sont les ancêtres. Et quand ils ont vu qu'on les enterrait, mais avec respect, avec fraternité, avec amour, ils ont dit, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai ce qu'il propose. Et voilà, je suis heureux aujourd'hui d'avoir découvert à Madagascar des jeunes qui aiment leur pays, qui n'aiment pas l'argent pour l'argent, qui n'aiment pas les salaires. Ils sont des volontaires. Et leur salaire, ce n'est même pas 50 euros par mois, parce qu'il faut vivre aussi. Mais volontaires. Et qu'eux, ils sont en première ligne. Partout où vous allez à Kamassou, vous allez voir un jeune malgache qui est responsable et qui est en train d'encourager ses frères à travailler, à être honnête et à scolariser leurs enfants et à accepter les dînes, qui est le savoir-faire de Malagas, de vivre ensemble, avoir une discipline de vie communautaire. Parce que nous sommes des milieux, il faut cela.
Et ce que vous avez créé dans cet endroit-là, à Kamassou, c'est finalement une ville qui pourrait servir de ville modèle pour de nombreux pays dans le monde, pour lutter contre la pauvreté, tout en préservant l'environnement, parce que vous avez réussi à concilier les deux.
Oui. Je n'ai jamais dit que nous sommes un modèle. Si les autres,
c'est moi qui le dis.
Bon, voilà. Si les autres le disent humblement, nous disons bon, que Dieu vous garde, que Dieu vous aide. Et faites aussi cela. Parce qu'il y a quand même des gens un peu pleins de... illuminés, qu'ils ont vu que pour la première fois à Madagascar, ils viennent me disent, mon père, je vais faire comme vous. Je dis, bonne chance, mon frère. Avec qui? Comment? Est-ce que tu connais la langue? Est-ce que tu connais la tradition, la mentalité, les coutumes de ce pays-là? Est-ce que tu connais des gens de confiance?
Bon. C'est ça la base.
Mais bien sûr, bien sûr. Moi, quand j'étais à Wanganjan, j'ai appris l'âme malagache. J'ai appris.
Pendant une quinzaine d'années.
Une quinzaine d'années. Je fais un noviciat pour commencer plus tard cette œuvre qui n'est pas la mienne, qui est l'œuvre du Créateur et que je suis. Avec tous mes amis malagasy, les instruments. Nous ne sommes pas plus que des instruments. Nous ne sommes pas les patrons, mais nous devons le faire avec tout notre amour, avec toute notre passion, avec tout notre sérieux. On ne vient pas pour être utile à quelque part. On vient d'abord apprendre et vivre quelque chose avec des frères qui souffrent et que cette souffrance-là ne doit pas me toucher sous la surface, mais doit me toucher le cœur. Et c'est à partir de là qu'on est pris par la compassion et que vous voulez partager son sort. Et vous mettez à sa place pour sortir ensemble. Sortir ensemble, pas pour y rester, pour sortir de cet enfer. Eh bien, quand mes frères malagas, ils ont vu cela, ils ont dit, on te suit. Parce que les paroles peuvent émouvoir, mais les actes attirent les gens.
Là, ça y est, vous avez fait vos preuves, on peut dire. Mais du coup, par rapport à cette notion d'inspiration, vous dites au départ, il faut bien connaître le pays, bien connaître la culture. Et est-ce que pour vous, le lien entre lutte contre la pauvreté et préservation de l'environnement est essentiel?
Bien sûr, mais l'extrême pauvreté, les plus riches, les entreprises qui n'ont aucun souci social ni environnemental, eux, ils détruisent l'humanité, notre terre, notre maison commune. Et l'extrême pauvreté aussi détruise, parce que la décharge de Tananarive, c'est une honte pour la ville. C'est une honte parce que ça, elle envoie de la fumée sur toute la ville, sur toute la capitale. Et quand c'est sec, et quand il pleut, quand c'est la saison des pluies, des odeurs qu'on ne peut plus tolérer, on ne peut plus vivre. Eh bien, aujourd'hui, il y a un savoir-faire. Tout à l'heure, il y avait le président de Veolia qui était là. J'avais envie de le dire, mais venez chez nous, à Madagascar, à l'Afrique, pour nous aider à...
Il y a une entreprise française de déchets et de gestion de l'eau, multinationale.
Qui vient nous aider un peu à vivre dignement à Madagascar et à l'Afrique, parce que l'eau, c'est un problème à Madagascar et en Afrique. C'est un problème. Les gens n'ont pas assez d'eau. Il n'y a pas d'eau pour boire. L'eau propre, il n'y en a pas. On doit aller chercher des kilomètres et kilomètres, même en ville.
Comment vous faites pour l'eau ?
Mais on se débrouille comme on peut. Il y a des gens qui ne boivent. On cherche partout de nouveaux forages, des sources. L'actuel président de la République à Madagascar, M. Andry Rajoelina, qui vient d'accéder au pouvoir cette année, il a promis. Il a dit, je fais des serments. Je n'ai pas fait des promesses. Je veux changer cette pauvreté. Je veux que mon peuple vive plus dignement. Et alors, j'y crois pour le moment. J'y crois. Et je pense qu'il est jeune. Il est visionnaire. Je suis sûr qu'il ne va pas baisser les bras. Parce que le peuple souffre et qu'il faut aller à une vitesse supérieure. Lui-même l'a dit. Madagascar était connu comme un pays mour-amour. Maintenant, vous allez le connaître comme un pays à grande vitesse. Moi, je l'appuie à 200%. Je l'appuie parce que les pauvres paysans à Madagascar, les pauvres de la ville sont fatigués d'attendre. D'attendre depuis Madagascar l'année prochaine. Va fêter 60 ans d'indépendance. Ceux qui ont combattu en 1947 pour l'indépendance de Madagascar, s'ils se réveillent aujourd'hui, ils seraient morts d'arrêt du cœur. Disait quoi ? C'est ça, la pauvreté là, pour laquelle on s'est battu, pour laquelle on a donné notre vie. Alors là, ils seraient morts de surprise. Pourquoi leurs dirigeants depuis l'indépendance, pourquoi ils ne se sont pas souciés de leurs millions d'enfants ? De leurs millions de jeunes, 250 000 jeunes qui entrent au marché du travail chaque année. Quelques-uns, quelques milliers seulement peuvent avoir un travail. Le reste va où ? Et Madagascar, c'est un pays précieux, d'une biodiversité, d'une faune, flore extraordinaire, un peuple joyeux, accueillant. Pourquoi on le massacre ? Pourquoi on le laisse dans l'oubli ? Je suis allé à Madagascar à pied dans la brousse, dans la forêt. On se voyait avec quelqu'un que je vois pour première fois. On se salue comme des frères. Je suis allé à moto, tout seul, 1000 kilomètres, dans le sud-est. Et tout seul, je crève. Des gens qui viennent, on se salue comme si on se connaissait depuis des années. Aujourd'hui, on ne peut plus faire ça. Voilà, j'ai vu ce pays, comment il a sombré, que l'extrême pauvreté a tué l'âme. Et la pauvreté, c'est une prison qui tue l'âme, qui tue l'esprit d'une personne. Et quand vous tuez l'esprit d'une personne, l'âme, eh bien, vous avez tué la personne.
Au-delà de Madagascar, quel regard portez-vous sur le monde aujourd'hui ? Parce que ce que vous décrivez à Madagascar, on peut le voir dans plein de pays, malheureusement. Et avec les dérèglements climatiques, avec la dégradation de l'environnement, on sait qu'il va y avoir de plus en plus de pauvreté, de plus en plus de difficultés d'accès à l'eau, d'accès à l'énergie, de plus en plus de difficultés pour vivre dans de nombreux endroits de la planète.
Oui, mais à Madagascar, nous avons trouvé un chemin pour sortir de la pauvreté, parce que nous avons créé un oasis, parce que là où il y avait mendicité aujourd'hui à travail, là où les enfants n'allaient pas à l'école aujourd'hui, vous avez 15 000 enfants scolarisés, là où il y avait anarchie aujourd'hui, il y a respect, il y a communauté, il y a communion. Et bien sûr, dans tous les pays du monde, il y a ces problèmes d'extrême pauvreté. Mais c'est pour cela que les pays riches, les pays du Nord, il faut qu'ils fassent attention parce qu'il faut vivre plus sobrement. La sobriété aujourd'hui, il faut être plus responsable dans tous les domaines. Dans tous les domaines, le pays du Nord, les enfants d'aujourd'hui ici à Paris, en Europe, dans l'hémisphère Nord, doivent aussi penser qu'il y a des enfants de leur âge qui sont dans le Sud, qui n'ont pas d'eau, qui n'ont pas les choses les plus nécessaires, qui est de l'eau, qui est une maison digne, qui est l'hygiène, la propreté. Et le peuple malgache, il vit sobrement. Et le peuple africain aussi. S'il y avait tant de sobriété, il n'y aurait pas de réchauffement climatique. Il n'y aurait pas. Alors, ceux qui ont dit tout à l'heure, il y a quelqu'un qui a dit que 10% des pays riches produisent 50% des émissions d'effet de serre et que 50% des pays pauvres produisent seulement 10%. Alors voilà la relation. Alors, je pense, j'ai fait un appel à mes frères du Nord, aux jeunes, aux enfants. C'est vous les qui allez diriger aujourd'hui et demain le pays du Nord. Ayez toujours le sens du partage, le sens de que nous appartenons tous à la planète Terre que la planète Terre, c'est notre Terre. Nous n'avons pas choisi de naître en France, ou en Amérique, ou aux États-Unis, ou en Chine, ou au Japon, ou en Afrique. Ça nous a été donné. Ce n'est pas un mérite que j'ai, mais j'ai le choix de choisir d'être frère, d'être responsable, de m'occuper, de répondre aux cris d'un enfant qui crie, qui a faim, qui est malade, qui veut guérir. Je peux le tendre la main. Ça, c'est un geste que je fais moi-même. C'est mon choix, c'est ma liberté. Eh bien, cette liberté, ce choix, utilisons-le pour faire du bien à tous nos frères. Et cessons la guerre des religions, cessons la guerre idéologique, cessons la vanité de pays. Chaque pays a sa dignité, chaque pays a sa dignité. Et tous, nous sommes égaux, égaux. Je suis né, 1948, quand j'avais 6 mois, les Nations Unies, ils ont déclaré, le 10 décembre, les droits de l'homme. Tous ont signé, mais beaucoup aujourd'hui, même ceux qui ont signé, ne le mettent pas en pratique. Mais ils sont, en tout cas, c'est écrit, noir sur blanc, que nous sommes tous égaux et que nous sommes tous des citoyens de notre terre. Moi, je suis optimiste, mais avec les pieds sur terre, les pieds sur terre. Et moi, je dirais à tous mes frères, sœurs, qu'il faut commencer à s'engager là où on nous vit, dans votre quartier, dans votre pays, et pas aller ailleurs. Moi, j'ai commencé en Argentine, quand j'avais 17 ans. Et quand j'ai quitté l'Argentine, mon pays que j'aimais, je pleurais. Mais j'étais content d'aller à un moment où il n'y avait pas de tourisme, où les voyages étaient allés, sans retour. Je ne savais pas que plus tard, les transports vont se développer, qu'après, qu'il y aurait beaucoup d'avions et beaucoup de, les frais seront réduits et que les gens pourraient voyager plus facilement. Je ne savais pas ça. Quand je suis parti de l'Argentine, c'était un voyage sans retour.
Et aujourd'hui, vous ne le regrettez pas?
Non, je ne regrette pas. Je dis merci, mon Dieu. Mes frères malgaches m'ont enrichi parce qu'ils m'ont appris à vivre avec moins de choses et être plus heureux. Et moi, je les ai dit de ne pas baisser les bras, de continuer à vivre leurs valeurs, de la fraternité, de la fia vanan, de l'entraide et de la solidarité. On a tous quelque chose à se donner. Il faut savoir partager, parce qu'on ne vit qu'une seule fois, une seule fois. Et c'est pour faire le bien, et pas pour tromper, et n'est pas pour mentir, et n'est pas pour parler la langue du bois, et n'est pas pour profiter de frères. Être son frère, le mettre debout, pas être ni plus ni moins, frère. On ne peut vivre pas tout seul. Et je viens de dire au forum qu'il y a un mot, une parole, que je félicite l'Académie française de l'avoir inventé, le mot heureux. Le mot heureux, vous ne pouvez pas l'écrire au singulier. On ne peut être heureux qu'ensemble, jamais heureux tout seul. Alors voilà, le pays des riches, soyons heureux avec tous les pays de la terre.
Merci Père Pedro.
Merci à vous.
Standing outside of St. Mark's Church this night, waiting as they carry on the line. Just there in a daze, I heard all the things that they say and the words that they spoke gave me awful crying. He looked so natural tonight. Among natural foes I couldn't bear to see, and I hope that these people never visit me. sign. And they won't say that he looks so natural tonight. He had his hair off comb just right. It's not time to go.
Vous écoutez C'est pas du vent sur RFI et vous avez bien raison. Un téléphone, un film, une minute, c'est le principe du Mobile Film Festival qui vient de dévoiler sa 15e édition. Bonjour Bruno Smadja.
Bonjour.
Vous êtes le fondateur de ce festival. Cette année, vous avez choisi le thème « Agir maintenant sur le changement climatique » qui a rencontré un vif succès.
Absolument. On est très heureux. C'est la deuxième fois qu'on aborde ce thème. La première fois, c'était en 2015 pour la COP21. Et le sujet étant encore plus grave et toujours aussi présent, ben il faut continuer à enfoncer le clou.
Alors, vous avez reçu combien de films de combien de pays ?
On a reçu 800 films de 91 pays.
C'est un record ?
Le nombre de pays, oui. Le nombre de films, non. Mais le nombre de pays, oui. Et on en est très heureux, parce que ça montre voilà, l'importance et l'universalité de cette question.
Alors, le Grand Prix international a été décerné à l'Iranienne Fatima Nofeli pour son film « Wallet ». Alors, je vous laisse le décrire.
C'est un film qui est très, très beau et très stylisé d'un point de vue cinématographique. Et c'est pour ça que le jury a souhaité le célébrer. Dans l'esprit d'un taxi Téhéran, le fameux film iranien qui avait été primé à Cannes, on est dans un taxi collectif. Les gens, pour payer, doivent utiliser une denrée qui est de plus en plus rare, qui est l'eau. Et donc, on les voit payer dans une jarre et ils remplissent chacun à partir de leur gourde une jarre avec de l'eau. Et puis, après arrive une scène que je laisse les spectateurs découvrir et qui rend le film encore plus beau et encore plus émouvant.
Alors, c'est vrai, on ne va rien dire parce que tous ces films sont visibles sur YouTube. Donc, allez les voir. Et la lauréate donc, recevra, c'est le principe du festival, hein, une bourse de 20 000 euros, c'est ça ?
Oui, c'est le principe de notre festival, c'est de se dire qu'en retirant les contraintes économiques grâce au téléphone mobile, on va découvrir des talents, tout le monde va avoir la même possibilité d'y participer, et puis les meilleurs d'entre eux, ceux qui ont été sélectionnés puis primés par le jury, eh bien, ils auront la possibilité grâce à ces bourses de faire un travail de création et de production d'un niveau professionnel. Voilà, donc on les accompagne à hauteur de 20 000 euros. Un producteur qui va potentiellement aller chercher encore plus d'argent pour les aider à faire un nouveau film.
Et puis la preuve, on en parle, donc vous assurez aussi la médiatisation, le service après-vente. Alors la mention spéciale du jury a été décernée au Brésilien David Mourad pour déclaration. Là, c'est presque un choix politique. Hein.
C'est pas presque, c'est un choix politique. C'est un choix politique qui dénonce, en prenant l'exemple de Jair Bolsonaro, la duplicité du discours politique. Alors dans son cas, c'est particulièrement extrême. Et d'ailleurs, le jury a souhaité symboliser encore plus ça en remettant symboliquement un prix du meilleur acteur à Jair Bolsonaro. Ce qui est extrêmement fort. Donc on voit le discours de Jair Bolsonaro à la tribune de l'ONU qui nous expliquait que le Brésil était le pays qui défendait le mieux les questions climatiques dans le monde. Voilà, il le répète. Et puis après, on voit où il se situe, au milieu de la forêt amazonienne.
Oui, parce qu'en fait, c'est un Brésilien qui choisit une cassette qui date de 2019, comme si on était dans le futur. Hein, et il regarde ce discours de Jair Bolsonaro et après, il y a... Comme on dit, je ne sais pas le langage cinématographique, mais on s'éloigne
d'un plan large.
Voilà, on s'éloigne du personnage et on voit qu'il est assis devant sa télévision au milieu d'une forêt où il n'y a plus d'arbres. Donc on se rend bien compte du décalage entre le discours et les actes. Alors parmi les thématiques qui sont le plus ressorties, il y a l'invasion des déchets dans le monde avec ce beau film nigérian qui s'appelle Treasures.
Oui, absolument. Plastic Treasures.
Ah, Plastic Treasures.
Oui, voilà. Et il a été primé par le jury. C'est un film de Precious, qui est la réalisatrice, et qui est extrêmement intéressant parce qu'il a deux éléments. D'une part, il fait appel, il présente une réalité qui est celle de l'invasion des déchets plastiques. On le vit tous, on le vit particulièrement en Afrique. Et puis aussi, il fait référence à une initiative qui est extrêmement intéressante, qui a été mise en place dans un quartier de Lagos, où ils vont récupérer ces plastiques, ils vont les recycler et avec l'argent qu'ils vont en retirer, ils vont financer la scolarité d'enfants dans une école du quartier. Donc on est quand même dans un cercle très vertueux, dans une action très positive.
Ouais, c'est vrai que c'est assez émouvant de voir ce petit garçon qui ramasse les déchets et qui a la fierté d'aller à l'école après. Alors, ça se multiplie un peu dans le monde, ces initiatives. On peut maintenant même payer ses transports en recyclant ses bouteilles en plastique. C'est vrai que ce sont plutôt des bonnes idées à recopier. Et alors, nous sommes en ligne avec Kalilou Silla. Bonjour.
Oui, bonjour.
Vous aussi, vous vouliez alerter sur l'impact des déchets en filmant la vie quotidienne des habitants du quartier de Koumassi à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas de dialogue dans votre film, juste une musique que l'on entend derrière nous. Comment est-ce que vous avez eu l'idée de filmer ce quartier ?
Bon, tout d'abord, moi, je suis un réalisateur. C'est maintenant que je vis dans le cinéma. Et je vis dans le même quartier Bolibana. Je vis dans le quartier. Et quand j'ai entendu parler du festival, je me suis dit, mais pourquoi ne pas montrer le quotidien de ces habitants, de tout ce qu'on fait chaque matin, comment les gens vont à l'école, montrer comment l'environnement s'est dégradé par l'eau usée, les châssis plastiques, tout. Donc, j'ai appelé mon équipe, j'ai pris mon téléphone et on a commencé à filmer le quotidien des habitants.
Alors, comme je le disais tout à l'heure, hein, les auditeurs peuvent aller voir sur YouTube votre film. Mais c'est vrai qu'on voit des enfants, des familles qui vivent au milieu des déchets, au milieu de l'eau qui ne s'écoule plus parce que les caniveaux qui n'existent pas d'ailleurs sont bouchés.
Généralement, il n'y a même pas de caniveaux. L'eau est juste sur la voie, devant la cour, souvent dans la cour. Et il y a des parties même où le niveau de la lagune est monté. L'eau, le niveau de la lagune est monté jusqu'à dans la cour, devant des portes. Donc c'est vraiment très dangereux aussi pour ces habitants.
Et alors, est-ce que les habitants du quartier ont vu votre film et qu'en ont-ils pensé?
Oui, ils ont vu le film et ils ont eu un peu d'espoir. Ils se disent que peut-être grâce au festival, les autorités vont les aider. Les gens vont essayer de se pencher sur ce problème. Essayer de voir si on peut faire des caniveaux ou... Et moi-même, j'ai commencé à contribuer aussi des gens. Si les jeunes peuvent s'organiser, essayer d'arranger un peu le quartier.
Donc si les autorités d'Abidjan nous entendent, les habitants du quartier de Koumassi les attendent.
Oui, le maire aussi a commencé à... Depuis la semaine passée, après le festival, ils ont commencé à casser des secteurs de Koumassi. Il y a un quartier qu'on appelle quartier du Beau. Ils ont commencé à casser jusqu'à 20 mètres après la lagune.
Eh bien, écoutez, on va suivre cela dans C'est pas du vent. Vous nous tiendrez au courant, Bruno Smadja. Donc, ça sert de faire un film dans le Mobile Film Festival.
C'est génial comme nouvelle. Je suis très heureux de l'entendre, que ça puisse avoir un impact aussi positif.
Alors, on va suivre.
Et il faut continuer à mettre la pression pour que la vie de ses habitants s'améliore. Parce que les images qu'on voit dans le film, qui est très beau d'un point de vue cinématographique, sont absolument désespérantes d'un point de vue des conditions de vie et des maladies qui peuvent y être liées pour les enfants qui y habitent et les adultes aussi.
Merci Kalilou Silla. Autre sujet, la lutte contre la déforestation, on en parle souvent dans cette émission. Et là, il y a notamment le film « Pour l'amour de Thomasin Aderoukou du Burkina Faso. On écoute le dialogue de ce film et ensuite on sera en ligne avec vous, Thomasin.
Je veux qu'on revienne ensemble. Tu sais, le marché du bois commence à très bien marcher pour moi.
Je vais payer une maison et te payer une moto.
On sera très heureux tous les trois.
C'est pas l'argent qui compte, mais l'avenir de nos enfants. En plus, le marché du bois détruit la nature. Si tu n'arrives pas à prendre soin de la nature, comment pourrais-tu prendre soin de nous? Quand tu sauras prendre soin de la nature, on verra.
Et voilà une femme décidée. Bonjour Thomasin Aderoukou.
Bonjour.
Vous êtes en ligne avec nous depuis le Burkina Faso. C'est donc vous qui avez tourné ce petit film. Comment avez-vous eu l'idée de traiter ce sujet de lutte contre la déforestation?
En fait, merci beaucoup pour la question. J'avais eu l'idée avec mon ami. Je voulais aborder la question sur la déforestation, bien pour encourager les gens de planter les arbres. Mais quand j'avais décidé de discuter avec mon ami, c'est lui qui m'avait proposé qu'on aille dans un lieu, dans un village, en fait, qui est hors de Ouagadougou. On est passé dans le village, on a vu les arbres, on a décidé de faire aussi une chose par rapport aux arbres qui sont là, quoi.
Vous avez tourné dans quel village?
La commune de Komtiouga.
Non, parce que si les auditeurs vous entendent, ils seront fiers qu'il y ait eu un film tourné dans leur commune. Et donc, oui. L'idée, c'était de... C'est assez joli, c'est cette idée de dire que voilà, la femme arrête son histoire de couple, même si elle a le bébé dans le dos. Mais elle dit, si tu ne sais pas t'occuper de la nature parce que tu coupes le bois, tu t'occuperas mal de nos enfants.
Oui, au fait, c'est ça, au fait. Parce que la nature est tout d'abord une responsabilité de tout le monde, quoi. Je pense que c'est en partant de ça, si on peut gérer ou bien prendre sur la nature, c'est bizarre de prendre sur des humains. Et si on ne peut pas prendre sur la nature qui est tout petit, quoi, je pense que ce n'est pas possible de prendre sur une famille, même s'il y a l'argent, mais c'est la sensibilité de la nature d'abord qui compte, quoi.
Bah écoutez, en tout cas, ce film est très poétique et il a retenu notre attention. Vous avez l'intention d'en faire d'autres? Vous avez envie d'être réalisateur?
Au fait, je suis réalisateur. J'ai quitté le Nigeria pour Ouaga, pour Burkina, juste pour réaliser mon rêve de cinéma, en fait. C'est la réalisation du cinéma qui me fait venir à Ouaga.
Ben oui, parce que Ouaga, c'est le FESPACO, c'est la capitale du cinéma ouest-africain.
Au fait, c'est la capitale de cinéma africain, à mon avis.
Bah écoutez, on vous souhaite bon courage. Hein. Il y aura, on va en parler bientôt avec Bruno Smadja, une édition africaine l'année prochaine. Donc soyez bien attentifs. Merci pour votre témoignage. Et le Grand Prix France, maintenant, il a été remporté par Gonzague Legout pour son film Le Cri. Eh bien, on l'écoute, Le Cri. Bonjour Gonzague Legout.
Bonjour.
Alors à la radio, nous n'avons pas l'image. Je vous laisse décrire d'où vient ce cri.
Ce cri vient d'une personne qui court sur la plage en direction d'une autre. Et cette autre personne reste immobile à regarder la personne qui arrive à fond.
Voilà, cette personne, c'est une personne comme beaucoup de gens dans le monde. Hein. C'est un monsieur, tranquillement, il se promène sur la plage, il regarde son téléphone, puis il entend ce cri au loin, puis tout d'un coup, le cri vient vers lui et la personne lui fonce dessus, elle renverse par terre. Ça m'a beaucoup fait rire, mais surtout, ouais. J'ai trouvé l'image vraiment intéressante parce que derrière, il y a un texte que je vais lire. Il y a écrit « Le climat change, nous en entendons parler, nous le voyons arriver, mais certaines personnes continuent à ne rien faire. L'action commence par l'information. » Alors évidemment, étant donné que je m'occupe de cette émission, ça m'a évidemment fait plaisir. Mais c'était ça votre idée, c'était de parler de l'inaction?
Exactement. C'était de traiter effectivement de l'inaction, de l'immobilisme de certaines personnes face à ce problème climatique. Il y a encore certaines personnes qui n'y croient pas, qui pensent effectivement qu'il n'y a pas de changement climatique, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Et donc, du coup, on voulait traiter de ça. Et en mettant un angle un peu humoristique, parce que c'est déjà très anxiogène comme sujet. Donc, en se servant de l'humour, ça nous permettait de véhiculer ce message.
Et donc, vous avez tourné sur une plage en Normandie et je crois que vous avez fait un tournage avec le moins d'impact possible. Vous avez essayé d'être cohérent.
Exactement. On a essayé de faire un tournage qui respectait effectivement la charte Ecoprod, qui est en fait une charte auquel peuvent adhérer les productions ou les tournages et qui effectivement permet de réduire son empreinte carbone.
Alors, ça passe par quoi?
Alors, plein de choses. Par exemple, c'est le covoiturage, l'utilisation d'une voiture hybride ou d'une voiture électrique. Nous, en l'occurrence, c'était une voiture hybride. C'était manger bio et local. C'était, par exemple, on a nettoyé les plages, la plage aussi quand on y était, parce que malheureusement, il y a toujours des déchets qui sont rejetés par la mer. C'est plein de petits gestes comme ça qui permettent de réduire son empreinte.
Et alors, qu'est-ce que vous allez faire avec ce prix?
Avec ce prix, après l'avoir célébré, on va faire un projet. On a un projet... qui va aussi, pareil, porter sur les problèmes environnement, problèmes de société liés à l'environnement. Et voilà, on est en train de travailler dessus.
Bon, ben, tenez-nous au courant. Hein.
Avec grand plaisir.
Merci beaucoup, Gonzague Legout, et bravo pour ce prix. Donc, Bruno Smadja, c'est intéressant de voir que derrière, il y a une histoire. Hein, après ces prix du Mobile Film Festival, ça ne s'arrête pas là, on l'entend bien.
C'est tout à fait le but de notre festival. On s'est mis à défendre des grandes causes comme les droits de l'homme l'année dernière, le climat cette année ou en 2015. Mais avant tout, la philosophie qui nous porte, c'est celle d'aller découvrir des talents et d'essayer de les accompagner. On a des réalisateurs qui ont fait des longs métrages, Après avoir gagné, quelques années après avoir gagné, un qui va tourner l'année prochaine, son premier long métrage, Les Versants, sur la question des migrants, justement, dans la vallée de la Roya. Il s'appelle Guillaume Renusson. Mais voilà, c'est cette idée d'accompagnement, et elle est vraie en France, elle est vraie à l'international. On a un lauréat avec lequel on travaille en Tunisie. Et puis, dans cette dynamique, on va étendre avec une édition africaine l'année prochaine.
On garde le suspense, on en parle dans un instant. Je voulais quand même qu'on parle quelques secondes, quelques minutes même, du film qui a reçu le prix du public. Il s'agit du film Les Jours Rouges. On l'écoute.
Bientôt, la nature s'est fait oublier. Les pics de pollution sont devenus fréquents et agressifs. Pour tenter de préserver les populations, les gouvernements appellent au confinement et proclament les jours rouges. Une salle de classe. Le professeur, infatigable, poursuit son cours, comme si de rien n'était. Mais ce qu'il ignore, c'est que la génération qui se tient derrière lui n'est comme aucune autre. Élevée dans un monde à l'abandon, elle a dû se construire seule. Regrettant chaque jour qu'on ait choisi à sa place. Les parents ne sait quel miracle, elle a choisi de rêver l'impossible.
Alors évidemment, c'est toujours mieux avec l'image, donc une fois de plus, Les Jours Rouges, c'est visible sur YouTube. Bruno Spaccia, c'est étonnant que ce soit le prix du public, ce film, parce qu'il est très noir, en fait. Il parle d'effondrement, de fin de civilisation, d'enfants qui vivent dans des situations apocalyptiques, parce que rien n'a été fait en amont pour limiter la dégradation de l'environnement.
Je trouve pas ça très étonnant pour ma part, parce que c'est vraiment ce vers quoi on va à fond de train et sans rien faire pour changer quoi que ce soit. Donc l'idée aujourd'hui d'aller vers une situation d'effondrement, c'est quand même la plus probable, d'après les scientifiques, hein, c'est pas moi qui le dis, hein. D'après l'ONU, Monsieur Gutiérrez a dit qu'il fallait arrêter la guerre contre la nature.
Le secrétaire général des Nations Unies.
Hein. Absolument, en ouvrant la COP25 il y a quelques jours. Donc on voit que notre système est complètement schizophrène et à la fois, il y a beaucoup d'informations qui nous disent qu'il faut changer et à la fois, rien n'est fait sur la structure du système pour qu'il change.
Mais votre festival, 800 films de 91 pays, quand même, c'est très large comme réponse, j'ai envie de dire, pour ce thème « Agir face au changement climatique ». Ça montre quand même le décalage assez important entre la mobilisation des citoyens et par exemple ce qui se passe en ce moment à la COP25 à Madrid, où on voit que les États bégaient sur l'accord de Paris et qu'on n'avance pas.
Ah oui, ça le montre profondément et je pense qu'on s'inscrit vraiment dans les manifestations du vendredi des étudiants. Donc oui, cette génération des 20 ans, des 20-30 ans, voire en dessous, est en train de nous mettre un grand coup de pied au cul en nous disant voilà, notre avenir est en train d'être détruit, d'être gâché, donc soit vous faites rien, soit on s'en occupe. Et c'est fondamental, c'est un moment qui est, je trouve, historique parce que avec l'Internet, avec les réseaux sociaux, il y a aussi la possibilité de se retrouver dans un même combat partout dans le monde. Et ça, c'est une réalité qui est extrêmement forte. Quand des gens manifestent au Canada, à Lagos, en Russie ou au Japon, eh ben, ils vivent un combat qui est commun par rapport à une situation qu'ils subissent de manière globale.
Eh ben oui, c'est la première cause à solidarité obligatoire, comme on aime dire dans cette émission. Alors, on va lever le suspense, on l'a évoqué en pointillé, mais parlons-en réellement maintenant, Bruno Smadja. Donc, le Mobile Film Festival, l'année prochaine, c'est une saison africaine.
Oui, et j'en suis très heureux parce que ça fait des années que c'est un projet que j'essaye d'organiser, de structurer et de lancer. On est très bien pour pouvoir le lancer au mois de février. On recherche encore quelques financeurs, donc je lance un appel.
Allez-y, c'est le moment.
Volontiers, des partenaires qui vont nous accompagner, justement dans cette idée d'aller à la découverte des Steven Spielberg de demain, africains. On va faire cette édition qui sera exclusivement ouverte aux réalisatrices et réalisateurs qui habitent dans l'un des 54 pays du continent. Pas la diaspora, juste ceux qui habitent et qui peuvent prouver une résidence sur place. Et avec cette idée qui fait notre originalité, un mobile, une minute, un film, et qui en Afrique prend encore plus de sens, parce que le téléphone mobile fait partie de manière très très forte du quotidien des Africains, qui ont même inventé des usages qui n'existaient pas ailleurs, et parce que dans beaucoup de pays, les moyens de production professionnelle pour de jeunes réalisateurs via le court-métrage et les parcours classiques, climatique sont extrêmement réduits. Et donc, on va essayer de sauter cette étape. On va essayer de leur offrir la possibilité d'avoir un coup de projecteur et puis de les accompagner, encore une fois, avec des bourses pour aller créer dans les 4, 5, 6 prochaines années la nouvelle génération des grands réalisateurs africains.
Que l'on retrouvera donc au FESPACO à Ouagadougou dans
exactement,
quelques années.
Exactement, qu'on retrouvera à Cannes, qu'on retrouvera ailleurs.
Comment on fait pour participer?
C'est extrêmement simple. Il y aura un site mobilefilmfestival.africa où les gens pourront uploader leurs films, donc télécharger leurs films d'une minute. Alors, on a quelques règles par rapport à ça. L'important, c'est que les images soient faites avec un téléphone mobile. Après, le son peut être fait à l'extérieur du téléphone mobile. Le montage peut être fait à l'extérieur du téléphone mobile. Et puis, on peut rajouter de la post-production si on le souhaite. L'important, c'est que les images, au départ, soient réalisées avec un téléphone mobile. Et après, soyez le plus créatif, le plus inventif. On a justement choisi cette année de ne pas avoir de thème sur cette édition africaine pour laisser la plus grande liberté. Je suis persuadé que, connaissant le sens d'une forme de responsabilité, qu'il y aura des films qui vont être politiques, des films qui vont être sur le climat, sur la condition des femmes, sur le travail des enfants, mais aussi des films qui vont être simplement des films comiques ou des films sentimentaux. Voilà, l'important, c'est de faire preuve de créativité. Donc, travaillez vos scénarii, travaillez vos histoires, commencez à les travailler dès maintenant, vous pouvez les tourner. L'appel à films sera ouvert entre mi-février et fin avril, grosso modo.
Voilà, donc il faut aller sur le site régulièrement et quand c'est ouvert, bim, on télécharge. Merci beaucoup, Bruno Smadja, d'être passé dans C'est pas du vent.
Merci à vous.
On suivra donc cette édition africaine l'année prochaine. Merci à tous d'avoir participé à cette émission. Vos réactions nous intéressent, vous le savez, donc écrivez-nous sur les réseaux sociaux ou à c'estpasduvent@rfi.fr. Merci à Olivier Raoul pour l'enregistrement et à François Porcheron pour la réalisation. Prenez soin de vous et des vôtres. On se retrouve la semaine prochaine, même planète, même heure.
Je tourne et enfile.